Le journal de Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. La journée des oubliés des vacances où les Pères Noël verts, c'était lui. Julien Lauprêtre vient de mourir à 93 ans. Président du Secours Populaire depuis 1955, une des grandes voix de la lutte contre la pauvreté, vous l'entendrez. Et on revient sur une vie consacrée aux plus démunis. Quel financement après les annonces d'Emmanuel Macron, notamment de la baisse de l'impôt sur le revenu? Les niches fiscales des entreprises sont dans le viseur de Bercy. L'opposition attendait, elle, plus de proportionnel. Au sommaire également ce soir, les pistes de l'IGAS pour faire baisser les meurtres d'enfants par leurs parents. Une traversée de l'Atlantique en tonneau, presque réussie. Un grand nom de la littérature yiddish enfin traduit en français. Et puis le temps, week-end frais et pluvieux.
France Inter.
Il y a eu longtemps l'abbé Pierre et ses chiffonniers d'Emmaüs, puis Coluche et les Restos du Cœur. Il y avait aussi Julien Lauprêtre, le président du Secours Populaire depuis 1955, qui est donc mort aujourd'hui à 93 ans. Julien Lauprêtre, c'est une vie dédiée aux plus démunis, on va la retracer dans un instant. C'était aussi une voix qui nous était presque devenue familière depuis plus de 60 ans qu'on l'entendait. Comme ici, à France Inter en septembre 2016, il parlait à votre micro, Claire, de la journée des oubliés des vacances qu'il avait créé.
Lorsqu'arrive le 15 août, le gosse qui n'est pas parti ne partira pas. D'où cette idée, qui remonte maintenant à 30 ans, de la journée des oubliés des vacances. Au début, faut vous dire que j'avais beaucoup de difficultés avec le monde enseignant, parce qu'ils me disaient, c'est rien du tout, faut leur offrir des vraies vacances. Et à l'expérience, maintenant, ils ont changé complètement d'avis. Parce que première rédaction, lorsque le gosse rentre à l'école, qu'est-ce que tu as fait? Ben, s'il est à sec devant sa copie, il est bien malheureux. Mais s'il a vu, comme l'année dernière, avec 70 000 gosses à Tour Eiffel, ou cette année, avec plus de 50 000 gosses qui ont vu la mer, il en écrit comme s'il avait été 3 semaines à Saint-Tropez. Non, c'est vraiment important de donner de la joie, de l'espérance aux enfants. Et quand on pense qu'il y a 80 ans, il y a eu les congés payés et qu'il y a encore un gosse sur trois qui part pas en vacances, un Français sur deux qui ne part pas en vacances, il y a vraiment besoin de la solidarité.
La voix chaleureuse de Julien Lauprêtre. Édouard Philippe écrit sur Twitter que la France perd un pilier de la lutte contre la pauvreté et les hommages sont unanimes dans les associations comme dans la classe politique. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Julien Lauprêtre, c'est toute une vie consacrée à la pauvreté.
Et c'est d'abord l'engagement du fils d'un cheminot syndicaliste né en 26 à Paris, 12e arrondissement. À 17 ans, il entre en résistance, peint des slogans sur les murs de Paris occupés. Il est arrêté fin 43, une expérience fondatrice, nous raconte Joëlle Botalico, directrice générale adjointe du Secours Populaire.
Il avait partagé à un moment donné les geôles avec Manouchian et ça l'a marqué à vie. Ces hommes qui faisaient partie de la fiche rouge, leur histoire de résistant a imprimé une marque indélébile dans la manière d'envisager l'avenir pour Julien Lauprêtre, bien sûr.
Alors il prend la tête du Secours Populaire en 55, il transforme cette petite structure du Parti communiste en une association indépendante des pouvoirs politiques, syndicaux, 1 million de membres, 80 000 bénévoles aujourd'hui. Julien Lauprêtre qui a découvert la mer en 36 avec le Secours Ouvrier, un organisme communiste, élargit les actions de l'association avec par exemple, on vient de l'entendre, ses vacances pour tous et des principes, rappelle Joëlle Botalico, une solidarité universelle, inconditionnelle.
Ça dépassait la question de l'aide alimentaire, c'était vraiment cette idée de l'accès aux droits, de l'accès aux loisirs, de l'accès aux vacances, qui est partagée maintenant par tous les bénévoles qui vont s'attacher à poursuivre cette œuvre.
Et ce soir, le communiqué du Secours Populaire rappelle en 3 phrases l'actualité du combat de Julien Lauprêtre. La pauvreté est là, elle ne recule pas, elle s'aggrave.
On mesure bien avec son action, merci Rémi Brancato, ce que veut dire la pauvreté, dit aussi le directeur général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert. Le sentiment d'être hors-jeu, de ne pas pouvoir faire comme les autres. Les entretiens de Julien Lauprêtre, et notamment celui avec vous, Claire, sont bien sûr à écouter ou à réécouter sur franceinter.fr.
Beaucoup de questions après les annonces hier d'Emmanuel Macron.
Questions notamment sur les moyens ou le financement de certaines mesures, et en particulier de la baisse de l'impôt sur le revenu, autour de 5 milliards d'euros, qui devrait profiter à partir de janvier prochain à 15 millions de foyers fiscaux, d'après le patron de Bercy, Bruno Le Maire. Emmanuel Macron a dit hier hier que la mesure serait notamment financée par une baisse des niches fiscales pour les entreprises. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir Sébastien.
De quoi, évidemment, les inquiéter.
Les entreprises se demandent à quelle sauce fiscale et quel bouillon devront-elles avaler. Le chef de l'État n'a donné aucune précision et pour cause, la liste de ces niches fiscales est interminable. L'annonce de leur rabotage à hauteur de 5 milliards d'euros inquiète les organisations patronales. Du MEDEF aux petites entreprises, à la CPME Jean-Hugues Duménil se demande aujourd'hui quel avantage fiscal sera supprimé.
Franchement, c'est pas clair. Est-ce qu'il parle du crédit d'impôt recherche, auquel cas il attaquerait les sujets liés à l'innovation, alors que l'innovation, c'est le futur? Est-ce qu'il va nous parler de la TVA sur la restauration? La restauration, c'est le commerce, c'est la proximité. Est-ce qu'il va aussi s'attaquer à ce sujet-là? Enfin, franchement, on s'interroge. Et par contre, on sait traduire. La traduction, elle est très claire. Ça veut dire augmentation d'impôts et des prélèvements obligatoires sur les entreprises.
Ah, merci. On souligne néanmoins que les entreprises bénéficient aujourd'hui de près de 30 milliards de niches fiscales. Il ne s'agit donc pas de toutes les supprimer. En 2010, la Cour des comptes invitait à une évaluation de la centaine de niches fiscales réservées aux entreprises. Les sages invitaient alors à mesurer l'efficacité des niches fiscales hétérogènes, je cite, et contradictoires, empilées au fil des années.
Laurent Kramer, alors on ne revient pas en détail sur les annonces d'hier, suivies par 8,5 millions de personnes à la télévision, sans compter la radio, mais on s'arrête ce soir sur l'une des propositions institutionnelles du chef de l'État, l'introduction d'une dose de 20% de proportionnelle à l'Assemblée et une augmentation au Sénat. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Proposition défendue par son allié du Modem, François Bayrou, mais qui ne va pas assez loin pour l'opposition.
Oui, pour le RN ou les Insoumis, pourtant adeptes de la proportionnelle, 20% c'est insuffisant. Eux réclament une proportionnelle intégrale. Julien Sanchez est porte-parole du Rassemblement National et maire de Beaucaire.
C'est bien, mais c'est pas suffisant. On veut pas un peu de démocratie, on veut une vraie démocratie. C'est ce que les Français veulent. Ils veulent que chacun soit représenté à proportion de ce qu'il représente. Et ça, nous ne l'avons pas encore.
La proportionnelle à 20%, un pansement sur une jambe de bois, ironise aussi Manon Aubry, tête de liste insoumise. Surtout si elle s'accompagne d'une réduction du nombre de parlementaires, comme le souhaite Emmanuel Macron. Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis.
Si l'idée est de diminuer le nombre de députés, les chiffres qui circulent sont quand même assez importants, hein, puisqu'on parle de 20-30% de députés en moins. Ça veut dire qu'il n'y aura plus qu'environ 400 députés à l'Assemblée nationale. Si c'est une centaine seulement élus à la proportionnelle, je ne pense pas que ça change grand-chose pour un groupe comme le nôtre, par exemple. Ça peut peut-être améliorer la situation pour des groupes encore plus minoritaires qui méritent une représentation. Au mieux, vous aurez un député et encore.
Éric Coquerel, pour qui ce mélange de scrutin et ce Parlement à deux entrées va surtout compliquer le système parlementaire et affaiblir l'Assemblée au bénéfice d'un exécutif toujours plus puissant.
Emmanuel Macron n'a pas accédé à deux requêtes des Gilets jaunes, merci Élodie, qui seront de nouveau dans la rue demain pour le 24e samedi de suite. Il a fermé la porte au rétablissement de l'ISF et il n'a pas évoqué les 80 km/h que le mouvement voudrait annulé. Et dans ce contexte des annonces présidentielles, les chiffres du chômage au premier trimestre en légère baisse après celle du dernier trimestre 2018. 25 000 chômeurs de moins sur les trois premiers mois de 2019. D'après Pôle emploi, un peu plus de 3 600 000 chômeurs au total en France. Un autre chiffre maintenant qui fait froid dans le dos, je vous le disais en titre. Un enfant meurt en moyenne tous les 5 jours en France, maltraité par un parent ou un proche. 363 meurtres d'enfants dans le milieu familial entre 2012 et 2016. L'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, s'est penchée sur ces données. Bonsoir Lisa Guyenne.
Bonsoir.
Et elle fait plusieurs propositions pour les faire baisser.
Oui, à commencer par la formation des professionnels de l'enfance et les services sociaux, mais aussi l'école, la médecine, la justice. Dans la moitié des cas d'infanticide, les enfants sont victimes avant leur mort d'une escalade continue de violences. Violences qui sont souvent signalées, mais qui restent sans suite, faute de communication suffisante. Des morts évitables, donc, que déplore Adrien Taquet, le secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance.
Le rapport parle d'occasion manquée. Ce terme est assez terrible. C'est qu'il y a effectivement des signes qui sont détectés, mais qui ne sont pas partagés, qui ne sont pas remontés, qui ne permettent pas de sauver ces enfants. Il faut donc que l'on améliore la communication entre ces différents professionnels pour identifier les facteurs de risque et éviter les drames.
Et justement, le rapport dresse une liste de ces facteurs de risque. Violence conjugale, troubles de la personnalité, addiction, mais aussi chômage, isolement et pauvreté. Autant de caractéristiques que l'on retrouve chez les parents infanticides et auxquels on n'accorde encore pas suffisamment d'attention. Enfin, le rapport préconise davantage de formation à la parentalité, les gestes à adopter du côté des parents pour éviter notamment le syndrome du bébé secoué, qui qui représente à lui seul 20% des infanticides.
Merci Lisa Guyenne, et si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, rendez-vous sur franceinter.fr. Trois journalistes convoqués par la DGSI après l'enquête sur l'utilisation d'armes françaises au Yémen, dont Benoît Colomba de la cellule Investigation de Radio France. 37 médias français, dont Radio France, apportent leur soutien à nos confrères qui n'ont fait, disent-ils, que leur travail. La sécurité avant de restaurer. Il faudra 4 mois pour sécuriser Notre-Dame et les projets de restauration attendront donc. Délai fixé par la Fédération du bâtiment spécialisée dans les monuments historiques, le GMH, groupement de 200 entreprises qui gèrent actuellement la sécurisation de la cathédrale, notamment des voûtes, comme l'explique le co-président du GMH, Frédéric Létoffé. Il est au micro de Boris Loumagne de France Bleu Paris.
Les dangers, c'est les voûtes. Donc vous avez des éléments de voûte qui se sont effondrés et il y a des parties de pierre qui sont suspendues dans le vide. Donc ces éléments-là peuvent tomber à tout moment. Donc il faut rapidement dégager les éléments de bois qui sont calcinés sur les voûtes et puis mettre en place un platelage à l'intérieur pour sécuriser ces zones. Il y avait des entreprises qui intervenaient sur Notre-Dame avant l'incendie, qui ont été réquisitionnées. Elles se sont mobilisées d'ailleurs pour mettre les moyens nécessaires pour sécuriser les zones. Et elles sont sur place. Vous avez au jour d'aujourd'hui 80 personnes qui travaillent dans différents corps de métier et qui sont mobilisées tous les jours. Il y a aussi des travaux de nuit, il y a eu des approvisionnements et des montages qui ont été faits la semaine dernière de nuit. Et on travaille également le week-end. Les entreprises se sont mobilisées.
Et puis, autre édifice religieux à Paris, l'église Saint-Pierre de Montmartre. C'est là qu'auront lieu jeudi prochain à 15h30 les obsèques du rocker Dick Rivers, mort mercredi, à 74 ans.
Au Sri Lanka, le chef de la police démissionne après les attentats du dimanche de Pâques.
Oui, c'est le deuxième départ après celui du plus haut responsable du ministère de la Défense hier soir. Près de 10 000 soldats sont mobilisés pour rechercher 140 personnes qui auraient des liens plus ou moins étroits avec le groupe État islamique qui a revendiqué les attaques. Des explosifs ont déjà été saisis. Les attaques vont coûter 1,5 milliard de dollars au tourisme sri lankais cette année, d'après le ministre des Finances. Quant au bilan, il a été revu à la baisse par Colombo, 253 morts. Au Pakistan, ce sont les équipes de vaccination contre la polio qui sont prises pour cible. Une vaccinatrice tuée par balle, une autre blessée hier soir dans le sud-ouest du pays. Deux policiers abattus aussi en début de semaine alors qu'ils encadraient une équipe médicale. Ce sont les rumeurs d'effets secondaires qui ont déclenché ces attaques. 25 000 enfants se sont retrouvés aux urgences et les autorités craignent que plusieurs milliers d'entre eux ne soient pas vaccinés lors de la campagne actuelle. Les précisions depuis Islamabad de Sonia Ghezali.
Les lots de vaccins ont été analysés en laboratoire. Aucune réaction au vaccin n'a été observée. Avec ces mots adressés à la population dans un message vidéo, le ministre provincial de la Santé du nord-ouest du pays souhaitait faire taire les rumeurs et mettre fin au mouvement de panique qui a suivi. Il n'en a rien été. Des dizaines de vaccinateurs ont été battus ou harcelés. Un centre de santé incendié, des milliers d'enfants amenés dans les hôpitaux par leurs parents inquiets, une vaccinatrice et deux policiers tués. Selon les rumeurs, souvent répandues par des religieux ultra-conservateurs et des talibans dans les régions frontalières avec l'Afghanistan, les vaccins contiendraient du porc ou causeraient l'infertilité. Actuellement, au moins 260 000 agents de santé participent à une campagne de vaccination. 150 000 policiers les escortent sur le terrain. Au cours de ces 7 dernières années, plus de 100 personnes impliquées dans ces campagnes de vaccination ont été tuées. Aucun des meurtres n'a été revendiqué. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI pour France Inter.
Ils ne veulent pas de ce que le quotidien El Watan appelle une demi-révolution. Les Algériens, un peu moins nombreux aujourd'hui dans le centre d'Alger. 10e vendredi consécutif de mobilisation néanmoins pour demander la fin du système, c'est-à-dire les proches de l'ancien président Bouteflika, alors que plusieurs hommes d'affaires liés à son clan ont été arrêtés ces derniers jours. Un train blindé vers Olive qui, à l'aube, quitte la gare de Vladivostok dans l'extrême-orient russe. Ce n'est pas un James Bond, c'est le leader nord-coréen qui rentre à Pyongyang après son sommet avec Vladimir Poutine. Sommet amical, dit Kim Jong-un. Rien à voir avec la mauvaise foi américaine. Donald Trump dit lui qu'il apprécie l'implication de son homologue russe.
Il est 19h14 sur France Inter, la suite du journal de Sébastien Paour avec du rugby et le futur encadrement du 15 de France qui se précise.
Oui, Raphaël Ibanez deviendra manager après la Coupe du Monde cet automne au Japon. L'ancien capitaine des Bleus sera notamment chargé du lien entre les internationaux et les clubs, dans un encadrement probablement dirigé, Fanny Lechevestrier, par Fabien Galthié.
L'ancien talonneur et capitaine du 15 de France a mis fin au suspense, expliquant avoir dit oui à la sélection comme manager après un entretien hier soir avec le président de la fédération. C'est lui qui, à l'avenir, fera donc notamment le lien entre les clubs et le staff du 15 de France, mais aussi avec les partenaires et la presse. Un rôle qu'a très longtemps occupé Jomazo, mais qui n'avait depuis jamais été remplacé et qui sera loin d'être superflu quand on connaît le caractère cassant que peut avoir Fabien Galthié. À 46 ans, retrouver Raphaël Ibanez à ce poste n'est pas vraiment une surprise. Retraité des terrains depuis 10 ans, il ne s'est jamais éloigné du rugby. Consultant pour France Télévisions, manager du club de Bordeaux de 2012 à 2017, il multipliait aussi depuis 2 ans les voyages à l'étranger pour s'imprégner de ce qui se faisait ailleurs en termes de management et d'entraînement, comme au Munster ou au sein de la sélection galloise. D'ailleurs, avant de rejoindre l'équipe de France, le Landais va partir cet été pour une pige en Nouvelle-Zélande au sein de l'encadrement du club de Thames Valley qui évolue en 3e division nationale.
Raphaël Ibanez, c'est tout de même 98 sélections et 4 victoires au tournoi des 6 nations. Il disparaît 3 mois après son fils, le footballeur Emiliano Sala, mort dans un accident d'avion alors qu'il allait vers son futur club, Cardiff. Horacio Sala a succombé aujourd'hui à une crise cardiaque. Il avait 58 ans. Voici maintenant l'un des grands auteurs de la littérature yiddish, Alpern Levik, peu connu jusqu'à présent des lecteurs français, faute de traduction. Mais le voilà désormais accessible grâce aux éditions de l'Antilope, une maison indépendante qui a fait traduire le récit autobiographique de Levik. Ça s'appelle « Dans les bagnes du tsar », une plongée, Ilana Moryousseff, dans la Russie pré-révolutionnaire.
C'est un récit de captivité qui s'impose d'emblée parmi les plus grands. On pense bien entendu à Dostoïevski, Souvenir de la maison des morts. C'est Gilles Rosier, le directeur des éditions de l'Antilope, qui a eu la bonne idée de faire découvrir ce texte au public français.
C'est un texte que j'avais découvert pendant mes études de yiddish. C'est un texte qui est un grand classique yiddish, mais par un auteur qui est très peu connu du grand public français parce qu'il est poète et dramaturge, et donc très peu de ses textes avaient été traduits en français jusqu'à présent.
Levik, jeune poète révolutionnaire, issu d'une famille juive orthodoxe, est arrêté en 1905, condamné à 6 ans de bagne et à la relégation à perpétuité en Sibérie. À la fin de sa vie, alors qu'il vit à New York, il publie ce récit autobiographique. Sous sa plume, les incidents les plus anecdotiques, la distribution du thé le matin, une orange offerte par le médecin de la prison, les rapports entre les politiques et les droits communs, tout devient passionnant, vivant et intense, comme l'était probablement Levik lui-même.
Par exemple, à un moment donné, il donne la parole à un de ses codétenus, un détenu de droit commun, qui lui fait une leçon en lui disant « Vous me trouvez plus inhumain que vous, moi j'ai pris mes responsabilités, j'ai tué une personne, mais c'est moi qui l'ai fait. Vous, en tant que révolutionnaire, vous incitez les autres à tuer. Vous trouvez ça mieux, moi je trouve ça moins bien. »
Dans les bagnes du tsar, un grand texte littéraire par un grand esprit, tout sauf dogmatique.
Dans les bagnes du tsar de Alpern Levik, c'est traduit du yiddish par Rachel Hertel et c'est donc publié par les éditions de l'Antilope. On termine avec quelqu'un qui s'est lancé dans un défi un peu fou mais qui est en passe de réussir, traverser l'Atlantique dans un tonneau. Cela fait 4 mois que Jean-Jacques Savin a quitté les Canaries. Il se laisse pousser par les courants dans son embarcation d'à peine 3 mètres de long. Il est en ce moment à 390 km de l'île de Saint-Barthélemy dans la mer des Caraïbes. Il vient de passer la ligne que son mentor avait atteint en 1952, le navigateur naufragé volontaire Alain Bombard. C'était sur son canot pneumatique.
Lui, il avait une voile. Hein. Il était quand même sur un bateau pneumatique de 4,50 m avec une voile. Et il a mis de l'ordre de 65 jours, disons, pour amérir au nord de la Barbade.
Et vous, près de 4 mois et demi, dans un tonneau?
Et moi, c'est 4 mois et demi, parce que j'ai pas de quoi me diriger. Je suis comme une balle de ping-pong, je vais tantôt à droite, tantôt à gauche, je monte, je descends, ça fait partie du jeu. J'ai du poisson qui sèche sur le toit. Hier, j'ai mangé un tartare cru, aujourd'hui, ça sera un tartare cuit, et pour l'instant, tout se passe bien, j'ai pas de problème. J'ai déconnecté pendant 4 mois, là. Ça fait 4 mois hier. Pendant 4 mois, j'étais complètement libéré. Le seul petit tracas que j'avais, c'était le vent, la direction du vent. J'aurais dû être arrivé déjà depuis un mois. Mais c'est pas grave, je m'ennuie pas. Tout se passe bien et je suis pas pressé de retrouver les gens pressés.
L'aventurier Jean-Jacques Savin, 72 ans tout de même, ancien militaire, il a la forme, il est joint sur son téléphone satellite par Sébastien Sabiron. Il devrait franchir demain la ligne d'arrivée qu'il s'est fixée, avant de gagner Fort-de-France en cargo s'il est récupéré, ou ses proches l'attendent. J'ai bien aimé cette image, comme une balle de ping-pong au milieu de l'Atlantique. Et en voici deux autres qui sont un peu comme des balles de ping-pong derrière la vitre de ce studio, Henri Bérec et Ronan Mahé, que je remercie. Ils étaient aux manettes des journaux de 13, 18 et 19h d'Inter toute cette semaine, Claire.
Merci beaucoup Sébastien Paour. Allez donc goûter le contenu d'un autre tonneau.
Allez, oui, pas du poisson cru sur le toit.